ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli. Bonjour à vous, soyez les bienvenus dans cette émission de décembre qui va clore donc l'année 2022. C'est un moment où il est d'usage, à l'approche de Noël, de bénéficier d'une trêve et de rompre ainsi avec une actualité, reconnaissons-le, plus que morose. Mais comme je ne suis pas fan de sapins et de guirlandes, j'ai préféré vous proposer d'entendre, en guise de cadeau, une parole forte et engagée, portée par des textes qui n'appartiennent pas au champ de la poésie, mais qu'importe le genre littéraire, lorsque l'écriture est puissante et vous émeut. C'est ce qui s'est passé pour moi lorsque j'ai découvert tout récemment cet ouvrage édité par Folio et intitulé « SOS Méditerranée, les écrivains s'engagent ». C'est un livre qui rassemble les écrits de 17 auteurs qui, par leur contribution littéraire, soutiennent l'action de SOS Méditerranée. Rappelons que SOS Méditerranée est une association qui organise depuis 2015 des opérations de secours en mer grâce au navire Ocean Viking. Ce nom vous dit sans doute quelque chose, puisqu'il en a été question tout récemment dans l'actualité, du fait qu'aucun pays du pourtour méditerranéen ne souhaitait accueillir ce bateau et qu'après bien des tergiversations qui ont rallongé le calvaire des personnes naufragées, l'Ocean Viking a fini par pouvoir accoster dans le port de Toulon. Tous les textes contenus dans cet ouvrage sont intéressants et ont chacun leur spécificité. J'en ai choisi 5 qui m'ont davantage plu, sans doute parce que l'écriture m'a semblé plus tranchante et plus apte à servir le propos, mais surtout parce qu'ils sont tous liés à cette mer Méditerranée qui est tout à la fois synonyme d'espoir et de danger mortel. En parallèle à ces lectures, vous entendrez différents morceaux de musique du monde dont je vous donnerai au passage les références et qui, à l'opposé de notre frilosité d'Européens à accueillir l'étranger, sont de réjouissants exemples de la réussite des métissages musicaux. Commençons avec quelqu'un dont je vous ai déjà parlé puisque je lui avais consacré une émission en septembre 2021, quelqu'un qui, depuis longtemps, exprime à travers ses œuvres son soutien aux démunis et plus particulièrement aux exilés qui viennent frapper à la porte de l'Europe. Il s'agit de l'écrivain italien Eri De Luca, avec un texte qu'il a appelé « Mal de mer ». Un peu de musique avant d'entendre les mots d'Eri De Luca. C'est un morceau tiré d'un album de musique arabo-andalouse intitulé « Suerte ». Un album qui, justement, dépasse les frontières puisqu'il réunit 3 ensembles. Le premier est oriental, avec violon, canoun et percussion. Le deuxième est espagnol, avec guitare et percussion. Et le troisième est français, avec alto, violoncelle, contrebasse et accordéon. À tous ces instruments viennent s'ajouter les voix de Abed Azriye, chanteur syrien, et Serge Guirao, chanteur hispano-français. صاحي هل من مجير من الهوى أو نصير هذه Sabio amigo que socorra el mal de amor lishajin caidi del que va شجين كئيبي سمتيش من ما في ضميري يشكو من ما في ضميري Un vers de l'Énéide de Virgile est resté imprimé en moi depuis le lycée. C'est une phrase qu'Énée adresse à Didon, reine de Libye, alors qu'elle l'accueille après son naufrage sur sa côte. Didon lui demande comment il a réussi à échapper à la destruction de Troie. De la réponse d'Énée ressort ce vers essentiel. « Una salus victis, nullam sperare salutem ». Pour les vaincus, une seule chance de salut, n'espérez aucun salut. C'est un paradoxe pour qui n'a pas eu à s'arracher à sa patrie, à chercher une échappatoire à travers le champ de bataille. Pour celui-là, il est impossible de comprendre que le salut réside dans l'absence d'espoir. Pour celui, en revanche, qu'encerclent les flammes qui ravagent sa patrie, ce vers est d'une clarté affreuse. À quoi bon espérer un secours? À quoi bon attendre une aide de l'extérieur? L'unique infime solution consiste à se débarrasser de tout espoir inutile, à se jeter à travers le feu pour tenter de forcer une issue. Je me suis souvenu du vers de Virgile durant la semaine que j'ai passée en Méditerranée sur un navire de secours de Médecins sans frontières. Parmi les centaines de personnes hissées à bord, sauvées de la noyade, il y avait des femmes avec des enfants dans les bras. Existe-t-il une force supérieure à l'instinct maternel de protection? Quelle puissance avait pu s'avérer plus impérieuse encore au point de pousser ces mères à risquer la vie de leur progéniture? La réponse est dans les mots d'Énée. Nul espoir de salut. Alors seulement se déploie la tragique énergie du désespoir. Le désespoir est la force motrice des migrations contemporaines. Le désespoir pousse une mère à monter de nuit sur un rafiot dégonflé et surchargé. Son geste se justifie par l'incendie qu'elle fuit. Aucun barrage, aucun refoulement, aucun danger mortel ne pourra faire obstacle au flux des départs sans projet de retour. Paul Valéry, Le cimetière marin. La mère fidèle y dort sur mes tombeaux. Il a écrit ce vers en 1920, voici plus d'un siècle. Il voyait une autre mère et des noms gravés sur des pierres tombales. Désormais, la Méditerranée est une fosse commune dont le fond est jonché de corps anonymes. Un gamin écrit sur son t-shirt le nom de sa mère, ainsi quelqu'un pourra lui annoncer un jour qu'il n'est jamais arrivé. Son corps, avec celui de milliers d'autres, sans bagage et sans nom, se dissoudra en un plancton universel qui voyagera dans la chaîne alimentaire. Il deviendra corail, algue, méduse. Un bateau qui s'approche pour secourir celui dont le corps est déjà à moitié sous l'eau est la manifestation d'un miracle, l'ultime impulsion qui permet au condamné à mort d'échapper à son sort. Aujourd'hui, trouver un port d'accueil est juste l'effet de la chance et non plus celui d'une obligation légale. Il faudrait un poète, 100 ans après Valéry, pour écrire la mer d'aujourd'hui, calme et étale comme un suaire. Chaque été, je reviens me baigner dans la Méditerranée. Je plonge, bras en avant, je nage sur le dos, face tournée vers le ciel. Ce n'est plus la mer de mon enfance, elle n'est plus elle-même. Elle n'est plus celle des tempêtes de Jonas, d'Ulysse, d'Énée, de Paul de Tarse, de Shelley, qui prévenait les navigateurs par des bourrasques ou des vols de mouettes et conseillait de rejoindre la côte pour se mettre à l'abri. Désormais, c'est une mer de noyades sans tempête. Désormais, des navires passent auprès des naufragés et poursuivent leur route indifférents. Désormais, les pirates libyens battent pavillon des gardes-côtes. Ils raflent les fuyards pour les ramener à l'esclavage, au commerce des corps humains. Je n'ai jamais souffert du mal de mer. Aujourd'hui, je sens le mal de la mer.
Thank you.
C'était un second extrait de l'album Suerte. Et nous allons poursuivre maintenant avec un texte de la romancière Carole Martinez, qui a écrit notamment en 2007 Le cœur cousu, un livre qui a reçu de nombreux prix. Elle a fait connaître. Ici, elle se met dans la peau d'une enfant et ce magnifique récit s'appelle « Quelques cailloux dans l'eau ». Tu ne sais pas d'où tu viens. Peut-être es-tu né en route. Tu n'as pas d'autre pays que les bras de ta mère, pas d'autres racines que ses jambes qui vous ont porté jusqu'ici. Tu ne sais ni d'où tu viens ni où tu vas. Tu as appris à marcher en chemin. Tu joues avec des cailloux sur la plage immense et vide. Tu attends sans poser de questions. Tu fais des tas, des petits murs qui s'écroulent. Tu imagines que tu te construis une maison qui pourrait vous abriter toutes les deux. Une maison si solide que le vent n'y entrera pas, ni le sable, ni la chaleur, ni la douleur, ni les larmes, ni les vagues. Tu t'appliques, mais malgré ta patience et les jours de labeur, rien ne tient jamais et il faut recommencer sans fin. Le soleil arrose ton monde de lumière sèche. Tu as soif et tu as peur de regarder la mer. Tu lui tournes le dos depuis que tu l'as vue pour la première fois. Tu lui tournes le dos pour l'oublier. Mais tu l'entends. Tu entends son souffle. Elle avance, puis se retire. Sa langue d'eau salée tente de t'attraper, langue liquide, plus large que la plage, langue énorme qui claque, qui lèche le sable, qui rampe jusqu'à toi. La mer est une bête, et ta maman dit qu'il va falloir monter sur son dos. Comment se fier à ce monstre qui gronde ? La mer te menace, te répète de faire demi-tour, de retraverser le monde dans l'autre sens, de repartir au désert, de revenir en arrière, d'accepter votre misère et de retrouver ceux qui attendent votre retour pour vous soumettre de nouveau, pour vous blesser, pour vous plier, pour vous noyer sur la terre ferme. C'est-elle seulement, la mer, ce que vous avez souffert pour arriver jusqu'ici, jusqu'à elle ? C'est-elle la brûlure des chemins et comment le monde vous a écorché les pieds? C'est-elle que revenir sur vos pas serait au-dessus de vos forces? Que l'espoir qui vous mène est votre seule planche de salut et que le monde que vous quittez est un naufrage? Vous êtes de ceux qui fuient la guerre et tentent de rejoindre des proches partis avant eux. Tes tantes vous ont envoyé de quoi payer votre passage sur l'autre rive. Le sable, soulevé par le vent, t'entre dans les yeux, tandis que tu tentes de construire ta maison qu'aucun loup ne pourra souffler. Quand vous êtes arrivé ici, les cailloux étaient déjà là, éparpillés sur le sol, et l'on voyait bien qu'il s'agissait des ruines du rêve d'un autre enfant. En en tenant un dans ta paume, tu as senti que les pierres te demandaient de poursuivre ce rêve abandonné, de bâtir cette maison inachevée. C'est pour ça, car les cailloux te l'ont inspiré, que tu as commencé à jouer avec eux. Tu as imaginé l'enfant qui avait ramassé ces pierres avant toi et tu lui as parlé comme à un ami ou à un frère. Tu lui as même donné un prénom que tu aimais bien. Tous les jours, tu retrouvais ton ami invisible et tu jouais avec lui. Et les pierres sur la plage immense en tournant le dos à la mer. Vous bâtissiez votre maison ensemble. Parfois, tu lui demandais de te trouver quelque chose de joli pour la décorer, un coquillage ou une étoile de mer. Ta maman dit qu'il y a une maison de l'autre côté qui vous attend, que sa sœur, ta tante, a un lit pour vous. Un lit avec un matelas et des draps blancs qui sentent le propre. Une maison avec un toit, une maison où le vent n'entre pas, ni ceux qui font monter les larmes et les cris. Un endroit tranquille, dans un monde doux, où l'on peut travailler et gagner sa vie sans crainte. Ta maman dit que tu pourras aller à l'école, tandis qu'elle s'occupera de gens âgés, puisqu'il y en a beaucoup à aider de l'autre côté de l'horizon, et qu'elle a fait ça toute sa vie. Oui, avec gentillesse et dévouement, elle a toujours pris soin des autres et même durant votre terrible voyage, elle a continué à porter secours aux plus vieux, aux malades, aux mourants. Mais pour atteindre cette maison, il faut d'abord monter sur le dos du monstre et parcourir son énorme échine hérissée de vagues. Elle t'a dit « Nous partons demain, nous embarquons sur un grand bateau. » Et tu ne sais quoi penser. Tu te souviens de ce jour où tu jouais sur la plage comme aujourd'hui. En te retournant pour jeter un coup d'œil à la mer sans qu'elle te voie, tu as vu ces vagues charrier le corps d'un enfant de ton âge. Un cadavre qui semblait ballotté par les flots et qui roulait sur le sable, puis repartait dans l'eau, puis roulait de nouveau. La mer jouait-elle avec lui comme un chat avec un oiseau mort, ou tentait-elle de le rendre à sa terre? La mer le grondait-elle après l'avoir tué? Mais pourquoi donc ne m'as-tu pas écouté, enfant d'homme? Tu aurais dû te contenter de ta peine et de ta misère. Tu aurais dû refuser de monter sur mon dos. Tu aurais dû cesser de rêver à un monde meilleur et t'ensevelir dans un trou sous tes cailloux. Tu aurais dû regagner ta prison et reprendre le fil de ton voyage à l'envers, ce fil coupé qui ne mène nulle part qu'au désespoir. Tu aurais dû rentrer chez toi et y endurer ton destin. Mais nul ne savait d'où venait le petit garçon, de quel pays il était parti, de quelle misère ni de quelle peine, empruntant les routes et s'accrochant à l'exil, comme à sa seule bouée, de quel naufrage terrestre il avait été le rescapé. Lui aussi avait marché jusqu'à la plage et sans doute avait-il joué avec les mêmes cailloux que toi et commencé à bâtir cette maison dont tu cherches aujourd'hui encore à restaurer les ruines. Le petit garçon inconnu, charrié par la mer, n'avait plus Dieu. Tu l'as vu, mais tu n'as pas pleuré. Tu as continué de jouer avec son rêve, en tâchant de ne pas avoir trop peur. Et quand les adultes ont tiré son corps sur la plage, ils ont trouvé dans ses poches ces mêmes petits cailloux avec lesquels tu tentais de bâtir ta maison. Les cailloux blancs de son rêve, que la mer n'avait pas réussi à avaler. Et parmi eux, il y avait les quelques coquillages que tu avais demandés. Les adultes les ont jetés, mais toi, tu en as fait un tas et tu as mélangé son rêve au tien, dans tes petits murs. Demain, vous partez à votre tour, vers l'horizon. Et tu te rassures en songeant que toi et ta mère, vous savez nager. Un homme au beau sourire vous a enseigné les gestes qu'il faut faire pour ne pas être digéré par le monstre, pour rester en surface. Il s'est allongé un jour sur le sable pour vous montrer. Vous n'avez jamais mis un pied dans l'eau, ni toi ni ta mère, mais vous avez nagé sur la plage, toutes les deux, en riant. Comme ce rire vous a fait du bien. Le petit garçon, dont la mère avait volé les yeux, devait avoir ton âge, mais il ne savait pas nager, alors que toi, tu connais les gestes pour dompter le monstre et rester sur son dos. Tous les jours, tu les as répétés, allongés sur le sable, dans ta robe à fleurs bleues. Car depuis des semaines, quand tu ne construis pas ta maison, tu traverses la Méditerranée, ventre au sol, tu nages sur la terre ferme en écartant les bras et les jambes, tu reproduis mille fois le même geste, tu nages à côté de ton ami sans yeux, pour tenter de lui apprendre la brasse par-delà sa mort. Tu nages vers lui pour le sauver. Demain, dès l'aube, vous partirez. Vous voilà parqués sur la plage avec des gens inconnus. Il y a beaucoup de jeunes hommes, mais des femmes et des enfants aussi, qu'on porte pour les installer au fond du bateau. Tu es soulevé et déposé sur l'embarcation à ton tour. Tu t'assois, ou plutôt tu te recroquevilles pour ne pas prendre trop de place, et tu sens les vagues sous tes fesses à travers la coque pneumatique, sans doute insuffisamment gonflée. Tu ne perçois plus rien que le brouhaha des corps qui s'amassent autour de toi et le mouvement du canot brinque-ballé par les vagues. Ce n'est pas la première fois que tu traverses l'horizon sans le voir. Pour toi, rien ne compte que les bras de ta mère et votre espoir. Elle te tient contre elle. L'homme qui vous a appris à nager reste non loin de vous, à cheval sur un boudin. Tu l'aperçois, il te sourit en te rappelant les gestes de la brasse. Il t'a offert deux petites bouées oranges qu'il a glissées en bracelet autour de tes avant-bras après les avoir gonflées. Elle te serre un peu, mais un cadeau ne se refuse pas, même si tu sais nager. Le canot se lance, les vagues le secouent, vous secouent, et tu niches ton visage contre la poitrine de ta mère dans l'odeur de sa peau que tu connais si bien. Dans la poche de ta robe, tu as glissé deux petits cailloux blancs, ronds et lisses. Tu les serres dans ta main. Le moteur pétarade à l'arrière. Tu ne vois rien, tu attends. Tu ne sais pas quand vous percerez l'horizon. Tu t'endors dans la berceuse que ta mère te chantonne à l'oreille pour faire taire et le vent et les vagues. Un petit garçon de ton âge joue sur la plage. Il aime la mer immense et la regarde avec amour. Il se baigne jusqu'à la taille dans l'eau glacée, avec ses petites bouées oranges, puis revient sur la plage en riant. Il se demande ce qu'il y a de l'autre côté, par-delà l'horizon. Il n'y a pas grand monde dans cette crique. Il est trop tôt encore, et puis ce n'est pas vraiment la saison. La foule viendra plus tard. Il voit soudain une forme que les vagues roulent sur le sable. Il s'approche, intrigué. La mère dépose à ses pieds une petite fille dans sa robe parsemée de fleurs bleues. Il arrache la fillette à la mère, il la tire de toutes ses forces d'enfant sur la terre ferme. Il se bat contre les flots pour la sauver des vagues. Malgré la peur, il te prend dans ses bras et essaye de te réchauffer. Quand les adultes le voient avec ce cadavre, ils se précipitent. Ils vous séparent, ton sauveteur pleure. Pas toi. Tu n'as plus Dieu. Mais le petit garçon a glissé deux cailloux dans tes orbites vides. Les cailloux blancs de ton rêve que la mère n'a pas réussi à avaler. Sa mère le serre dans ses bras pour le consoler. Ses bras qui lui sont un pays. Le morceau qui accompagnait le texte de Carole Martinez provient d'un album du compositeur et oudiste libanais Rabi Abou Khalil, dont les créations sont à la croisée des musiques orientales traditionnelles et du jazz. Voici maintenant un troisième texte écrit par quelqu'un dont je vous ai déjà entretenu à deux reprises. Il s'agit de Laurent Godet, qui évoque ici le désarroi d'un migrant face à l'inhumaine administration qui le bombarde de questions. Et ça s'appelle « Petit peuple ». Je suis d'un tout petit peuple, madame, que la plupart des gens comme toi ne voient pas. Tu entres dans la pièce, tu poses des questions, tu dis « nom, prénom ». Tu aimes cela. Tu as beaucoup de questions. Date de naissance, métier dans le pays d'origine. Tu regardes ton dossier, tu suis le protocole. Tu te caches derrière ces mots que tu n'as pas choisis en pensant être civilisé. Mais je te le dis, madame, il est violent, le protocole. Nom, prénom, tu continues. Tu n'hésites pas à répéter les questions lorsque les réponses ne viennent pas assez vite. Tu es pressé, il y a beaucoup de candidats, c'est ce que tu dis. Pour que j'accélère sûrement. Je n'accélère pas. Je ne suis pas candidat, madame. Ce que je demande ne tient pas dans un livre que j'aurais pu lire, dans un dossier que j'aurais pu apprendre par cœur. C'est ma vie que j'amène avec moi. Mais toi, tu continues. Cela fait longtemps que tu parles en question. Nom, prénom, avez-vous des raisons de craindre pour votre sécurité? Faites-vous partie d'un groupe ethnique ou religieux persécuté dans votre pays? Tu déroules toutes les questions que tu connais. Je dis non, tu n'écoutes pas. Tu crois que c'est la réponse à ta question, mais tu te trompes. T'en rends-tu compte? Je dis non parce que je suis d'un peuple, madame, qui regarde les ports au loin et n'a jamais l'autorisation d'accoster. Mes frères et mes sœurs errent sur la mer, longent les côtes, s'épuisent à fixer des yeux des villes qu'ils ne connaîtront pas. Et lorsqu'on finit par les laisser descendre, ceux qui les accueillent portent des combinaisons blanches comme si mes frères et sœurs étaient contagieux. Je viens d'un tout petit peuple que vous ne voyez pas, qui n'a aucun pouvoir, n'en aura jamais. Nom, prénom? Je suis esclave, madame, je le sais. C'est cela que je viens proposer, esclave pour quelque temps avant de repartir. Et vous n'en voulez pas de notre courage, de notre appétit, de notre envie de s'en sortir, vous n'en voulez pas. Pourtant, des pays se sont construits comme ça, ailleurs, autrefois. Mais vous, non. Et vous avez peur? C'est ce que vous dites? Je connais la peur, madame. Je viens d'un peuple qui tète la peur à la naissance. Je ne peux rien pour toi, ni écouter tes mots, ni répondre à tes questions. Cela ne me dit rien, madame. Tu ne connais rien de mon petit peuple. Tes peurs, à toi, ce sont des luxes. Tes maladies, des coquetteries. Je viens de la fatigue, madame. Alors, je te laisse là où tu es. Je dis non à toutes tes questions. Tu peux les reprendre. Tu peux en faire des listes, les passer, les repasser dans ton esprit. Je ne veux rien de toi. Je suis d'un petit peuple qui sait faire autrement, qui a toujours su faire autrement. Et je te laisse à ta fatigue. Je ne la comprends pas, je ne pourrai jamais la comprendre. Parce que la fatigue de mon petit peuple, elle, elle a une odeur. Celle des nuits dormies recroquevillées sur soi, celle de la peur des contrôles de police, celle de vie qui s'esquinte. C'est à lui que je retourne, mon petit peuple. Et je te laisse, toi, à ta solitude, avec tes questions qui tournent. Et si cela doit être un châtiment pour toi, qu'il en soit ainsi, madame. Les questions tourneront autour de toi comme des mouches. Nom, prénom, date de naissance, jusqu'à la fin. Et à aucune il ne sera répondu, car ce ne sont pas des questions, ce sont des ordres tournés autrement. Ce sont des refus qui font de faux détours. Je te laisse avec elle et je m'en éloigne. Parce que mon petit peuple a toujours su reconnaître les aboiements de chiens et il y en a dans chacune de tes questions. Alors, adieu, madame. Non, tu peux garder ce mot de moi, ce simple mot. Je te le donne et je le pose à tout ce que tu m'as dit. Non. la chanteuse malienne Rokia Traoré que vous venez d'entendre dans ce morceau intitulé « Tunka ». Rokia Traoré est une artiste qui mêle elle aussi dans ses compositions les rythmes africains à la musique occidentale. Le quatrième texte que j'ai choisi de vous lire est trop long pour figurer ici dans son intégralité. J'ai donc fait quelques coupures en essayant de garder l'essentiel du propos de son auteur. Son auteur qui s'appelle Kamel Daoud, c'est un écrivain et journaliste franco-algérien qui affiche clairement son ressentiment face à l'État algérien en s'interrogeant notamment sur le sens de ce mur dont la construction a débuté cette année sur le littoral d'Oran pour empêcher, dit-on, les haragas, les jeunes Algériens désireux de fuir leur pays, de prendre la mer. Pour accompagner ce texte, une seconde composition de Abou Khalil intitulée « The Pain After », la douleur après. Le mur de la mer. Au début du mois de mars 2022, les habitants d'Ain Turk, village côtier situé à 20 km à l'ouest d'Oran, se réveillèrent face à un mur. Brutal et imprévu, il séparait désormais la plage des maisons, fermait les escaliers donnant accès au sable, condamnait les terrains vagues qui se prolongeaient autrefois jusqu'aux algues. Il était déjà long de plusieurs centaines de mètres et on comprit vite que l'œuvre n'était pas achevée et que la construction allait séparer définitivement la mer des habitants. Le mur allait se prolonger, leur annonça-t-on, sur des kilomètres, tel un rempart armé, invraisemblable et évident à la fois, un mur pour interdire. Pour les Oranais, la plage d'Ain Turk sembla soudain plus vide encore qu'au plus rude hiver. Voulait-on vraiment enfermer la mer, ou plutôt les villages de la côte? Dans les deux cas, c'était absurde et scandaleux. Des semaines durant, on espéra que le tollé provoqué par ce scandale ferait fléchir les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'Alger. En vain. Rien n'y fit, ni pétition, ni campagne de presse, ni rassemblement de riverains et de militants, ni interpellation des responsables, ni les sempiternelles railleries qui tiennent lieu ici de résistance. À Alger, les décideurs étaient déterminés à mener à terme ce chantier aberrant qui prenait des allures guerrières. Une guerre pour empêcher les haragas d'accéder à l'eau. Les haragas, ces migrants clandestins qui rêvent de fuir pour rallier l'Espagne en quelques heures à bord de leur Zodiac surmotorisé. Ces jeunes gens qui, pour conjurer l'effroi, se mettaient parfois en scène, espiègles et hilares dans leurs vidéos ou leurs selfies. En vérité, ils étaient graves, terrorisés par les vagues. Le mur avançait. On pouvait encore accéder aux plages, à pied, en file indienne, par des sortes de trappes, des meurtrières ouvertes dans le corps de cette pierre unique, à la queue leu-leu comme lorsqu'on monte dans un bus, pour revoir la Méditerranée qui nourrit l'âme et appelle les désespérés. Pour Alger, la mer n'était pas une urgence ni un patrimoine. Les habitants pouvaient bien tempêter, hurler leur colère. L'impératif d'État s'imposait, non négociable, souverain. Il fallait fortifier le pays contre la Méditerranée. Il fallait empêcher l'exode d'un pays piégé depuis 1962 entre la religion et le culte des martyrs de la décolonisation. Quitte à enfermer la mer comme dans un verre d'eau. On pouvait envisager ce mur réel et incongru sous l'angle de l'absurde. C'était une preuve concrète d'incompétence. Voilà où menait l'incurie des bureaucrates sots et tyranniques. Il leur fallait faire montre d'autorité, frapper un grand coup, car les haragas continuaient à fuir et à se filmer, réjouis et heureux, effrayés par l'eau énorme qui montrait ses trombes dans la houle. Ils continuaient à creuser cette saignée qui renvoyait du pays l'image d'un goulag des corps et des désirs. Expression d'un échec majuscule. On fuyait, et la fuite, par son contraste lumineux, éclairait le pays pour ce qu'il était, une caserne de vétérans de guerre pathétiques et morbides. Les haragas fuient. Dès l'incise de la traversée, ils entonnent de maladroits chants de bonheur, leur voix si peu familière des joies sonores, si peu habituée à vocaliser un rêve, brise l'omerta, et dénonce la connivence de la croyance et du nationalisme. Elles interpellent ceux qui sont restés. Continuez à faire semblant, nous, on ira vivre. Visage émacié, regard hagard, ce n'est pas le régime qu'ils tournent en dérision, mais ceux qui continuent à faire semblant de le croire. À l'étranger, il faut expliquer avec précaution et pédagogie que, dans ce pays, l'ennui n'est pas un acte solitaire, mais un ouvrage collectif. L'interdiction de boire, d'aimer, de caresser le nu, d'embrasser, vivre ou voyager n'est pas l'apanage de la dictature, mais également l'ordre suicidaire réclamé par beaucoup au nom de la religion ou des ancêtres. Chaque migrant clandestin, ou presque, a lui-même mené la guerre contre le vice et l'Occident avant d'y aspirer comme à une monstrueuse liberté. Le même jeune homme qui crie sa joie de délivrer au cœur de l'eau peut être celui qui battait sa sœur parce qu'elle avait aimé, celui qui fréquentait assidûment la mosquée pour se laver de son propre corps. Le voilà au milieu des flots, mort de peur, qui espère désormais les lèvres d'un amour ou la fortune d'une ville d'Europe. Ces jeunes fuient aussi leur œuvre malheureuse, une prison dont ils emportent avec eux la moitié des pierres. Plus tard, ils auront affaire à ces pierres encombrantes et rêveront de les ériger à nouveau. Certains, inguérissables, emportent avec eux le mur d'Ayn Turk, un nouveau mur. La construction de ce mur dans ce village ne raconte pas qu'une aveugle et risible incompétence, mais le lien de cette terre à sa propre mère. Une parenté houleuse, une lutte ancienne. Comment repousser la mère? Comment la vaincre et en nier l'existence? Et pourquoi le désire-t-on si ardemment? Que reproche-t-on au juste à la mère? Peut-on vaincre ce rire qui a 1 million d'années? Cette usure antédiluvienne qui en nous lime la sédentarité? Le mur est gris et monotone, bloc imperturbable incrusté dans le sol. Un préfet venu s'enquérir de la situation fit des concessions. On creusa des portes d'accès, sortes de hublots, permettant d'entrevoir la mer en se tenant debout sur la pointe des pieds. La terre devint comme une soute de navire, et on en était réduit à ce parloir humiliant entre soi et l'infini. Du sable gris était piégé entre le mur et les vagues, à peine visibles. Bandelettes dévitalisées, comme ces champs de guerre que l'on tient neutres et excavés par les bombes. Ces anciens no man's land des guerres de tranchées, où les corps amis et ennemis pourrissent avec des lettres dans les poches. On se serait presque surpris à chercher ici des balles, des trous d'obus, des lambeaux de chair et d'uniformes. Thank you. Dans mon pays, on ne comprend plus la mer. Je me risque donc à cette première hypothèse. La mer est perçue comme ennemie de la nation. Comment la vaincre et la refouler ? Cette Méditerranée vole nos enfants qui s'enfuient avec sa complicité. Elle les noie, dénude nos femmes quand elles s'en approchent, inquiète les hommes impuissants. Telle est l'interprétation chargée de rancune qui domine. Sa géographie ne raconte pas notre histoire glorieuse. Pour les militaires, la mer est surtout une traîtresse logée dans le flanc de chacun. Toujours elle trahira. Dans le langage des politiques, l'ennemi n'est-il pas qualifié d'ennemi de derrière la mer ? L'expression en arabe est répétée à l'envi depuis la capitale. Les invasions sont toutes arrivées par le nord, disent-ils, par la mer. Alors, la mer sera pour toujours celle qui nous a dénoncés. La litanie de ces vagues n'effacera pas cette infamie. Chez nous, elle n'est pas seulement le contraire élémentaire de la terre, mais celui de la nation tout entière. La mer n'est plus grosse de l'histoire ancienne des corsaires algérois, des pirates et des captures mystérieuses. Non, elle est pour nous un leurre, l'éclaireur de l'ennemi. La mer est la brèche dans nos remparts, le maillon faible de nos défenses, le territoire que l'on peine à colmater pour enfin posséder un pays sûr. Sa déchirure est trop large, inquiète le corps, le pays, la mémoire. J'en viens à ma deuxième hypothèse. La mer est le présent. Je m'explique. La mer est difficile à retrouver à Oran. Elle est là, on le sent, au sel. La ville semble continuellement prêter l'oreille au ressac, à la rumeur d'un vieux tumulte. Les ancêtres l'évoquent pour parler de l'amour, du temps jadis ou de la mort. Les chanteurs de rail la citent, tout comme les vieux poèmes dont on a perdu la plupart des vers. La mer est aussi convoquée pour interpréter le ciel ou illustrer la séparation des amants. Renversée derrière les immeubles, la mer se trouve en contrebas de la ville et il faut se pencher par-dessus les balcons ou les falaises de l'Est pour l'apercevoir. Elle ne s'embrasse, étale, entière, que depuis le front de mer. Cette longue promenade où se dressent des palmiers, là, et les plus beaux immeubles de la ville. Ou encore, plus à l'est, lorsqu'on remonte l'autre flanc de la ville, où autrefois se taisaient les couples amoureux. Lovés dans les rochers, presque dans la mer, ils pouvaient s'embrasser. La mer, prise dans les géométries cubiques du port et de ses grues et de ses rades et de ses navires, se présente en fragments brisés, mal recollée à la terre. On ne peut la ressaisir qu'en s'éloignant vers le nord sans nom, vers ce point cardinal où elle reprend son poids. Cette houle qui vous noue le ventre, ce caractère ombrageux où peuvent persister les derniers monstres. Mais près des rades, elle se rend. Elle n'a plus rien d'infini en soi, dans ce clapotis piégé. Elle se salit. Les Oranais ne sont pas nageurs et le balnéaire ne fait pas partie de leurs habitudes. Sur le front de mer, surplombant la mer, ils viennent la regarder. Elle en fait de même. Mais pour voir la mer entièrement nue, il faut emprunter la route de la corniche. Là, on peut assister à sa reconstitution saccadée. Elle se rassemble avec orgueil et lumière, loin des casernes et des barricades. Là, son muscle se durcit. Une couleur sombre ranime son vieux mystère. On approche des villages côtiers. Étrange contraste. Il y a la mer. Elle a cette puissance monotone dont on ne déchiffre pas la raison, ce ton persistant comme le sang, ce lent mouvement qui lui vient de l'éternité, ces écailles qui la rangent dans l'immémorial. C'est ici que la terre se retourne, car la terre n'est que la mer renversée.
Thank you.
Personne ne l'avouera ici, mais si on regarde la mer, c'est souvent parce que c'est le seul endroit où on n'est pas obligé à une croyance précise et où le temps peut circuler dans les deux sens, le passé, le futur, ou même rester immobile dans les airs, comme les goélands. Je me dis que pour que la Méditerranée en vienne à vous changer, il faut précisément chercher son regard au loin. Là où, à peine séparée du ciel, elle commence à l'imiter. C'est là qu'elle peut nourrir le silence, le désir d'avoir un autre corps, un autre pays. Chacun peut l'éprouver. La mer pénètre lentement l'esprit. Elle vous renverse par sa gigantesque nudité, se déverse en vous, vous emplit. Il faut annuler en soi l'intercession des langues, les croyances. Je l'ai déjà vécu. Si on ôte tous les mots de son esprit, la mer nous montre d'où vient la terre. Voici le présent. Dans ce pays, on aime se souvenir. La mémoire est un culte. La guerre, la libération, les héros, les martyrs, la commémoration, le salut militaire. Or, la mer entame la mémoire. La remontée d'eau est néfaste pour la vase du souvenir. Contempler les flots nous arrache au récit du passé, nous propose d'être heureux. De plus, la guerre de décolonisation, la mer n'y a pas participé, n'y a pas aidé. Elle n'a donc pas sa place dans le calendrier des hommages. La mer distrait et soustrait. C'est un rire, n'est-ce pas? N'est-il pas moqueur? Les martyrs de la glorieuse décolonisation n'y ont ni trace ni tombeau. Alors, la mer ne sert à rien, sinon à limer nos frontières et à accentuer l'inquiétante porosité de nos remparts. Il faut vivre ici pour bien comprendre que ce n'est pas une métaphore, mais une méfiance tangible. La mer est une invite scandaleuse à nager, se déshabiller, bronzer et jouir, qui ne sied pas à la gravité de mise. Elle est comme une insulte au sacrifice de ceux qui sont morts. La mer, alors, il faut la repousser, car elle est trop joyeuse en été, trop immémoriale en hiver. Elle raconte une autre histoire. La lourde houle de son ventre est celle de temps trop anciens. Le mur d'Ain Turk fait partie de ce refus de la laisser entrer chez soi, en soi. La troisième hypothèse, la mer, ce mur. Peut-être reconstruire la mer ? Oui, en fermant les yeux, rien de plus simple. Les enfants s'amusent à la retrouver dans un coquillage vide. Pour les adultes, le coquillage est la vie rêvée. La mer est différente selon l'angle par lequel on l'envisage. On croirait à son horizontalité physique, mais c'est faux. Un occidental l'aperçoit comme source de délassement, il en rêve. Il a inventé les congés payés et la mer en a été réinventée peut-être. La mer, c'est le soleil, les vacances, le corps, le bronzage, l'Éden revisité en somme. Le paradis n'exige plus la mort, mais seulement que l'on ferme les yeux au soleil, allongé, abîmé dans la chaude obscurité pourpre des paupières fermées. On s'installe au bord de la mer pour se dispenser de la gravité. La mer est alors là, horizontale, couchée, infinie, continuant la vie. Elle finit par se déverser ailleurs, et cet ailleurs n'est plus une terre, mais la rêverie. On n'est pas tenté par la traversée, on se contente de se laisser traverser par elle. Ici, on la voit autrement, me semble-t-il. D'abord, pour les jeunes de ce pays qui veulent partir vivre en Europe, la mer est comme la mort. Elle sépare la vie terrestre de la vie idéalisée. Elle s'interpose, comme la mort, entre l'Éden et la chair. La mer, on n'y vient pas pour se reposer, mais pour l'escalader et sauter de l'autre côté. C'est un mur haut et large. Quand ces jeunes gens lui font face, ils ne s'y détendent pas, bien au contraire. Ils nouent leurs muscles, se raidissent dans l'effort, se cabrent contre la vague, ouvrent leurs yeux pour avaler tout l'horizon, de crainte de rencontrer des gardes-côtes, une houle trop haute. La Méditerranée, c'est la vie qui commence et la mort qui se montre. L'au-delà est bleu. Les mers d'ici le savent. Quand il fait beau, la mer tue. Alors qu'en Europe, quand il fait beau, elle fait rêver. Ici, le beau temps est mortel car c'est quand la mer est belle, plate et étincelante, que les plus jeunes se jettent dans des barques vers l'Espagne. Beaucoup reviennent le visage mangé par les poissons. Habituellement, les secouristes retrouvent les cadavres vers l'est d'Oran. C'est là que les promeneurs les signalent et que les proches les identifient. Le beau temps est donc le versant aveuglant de la mort. Dernière hypothèse, le mur céleste. Pour lutter contre les corps des femmes, les maillots de bain, la nudité, les islamistes ont pensé à un autre mur. Ils érigent un peu partout sur les plages des mosquées, car la présence du lieu de prière culpabilise les femmes. Alors que l'éternité est déjà là, offerte, on élève des voix pour prier, juste sous le nez du soleil. Et cela détruit ce bonheur. On en a pris l'habitude. Depuis des années, ces mosquées pieds dans l'eau fleurissent un peu partout. Pour elles, la mer est un au-delà concurrent. Ainsi donc, sur cette maigre bande de sable où se réfugie le monde, il s'agit de l'acculer. Peut-être le mur est-il également né de cette croyance. La Méditerranée, ennemie de Dieu. Les Aragas sont des enfants qui, quelque part, lui préfèrent une autre promesse. Terminé, je vous propose un texte écrit par François Morel en s'inspirant d'une chanson du poète breton Yves-Marie Le Guilvinec. Le ton est plus léger que dans le texte précédent, mais les mots du poète résonnent avec tous ceux que vous venez d'entendre et j'ai trouvé que c'était une jolie façon de terminer cette heure en votre compagnie. Yves-Marie Le Guilvinec. Je n'ai pas besoin de vous le présenter, c'est ce poète breton, marin de surcroît, qui est né en 1870 et mort en mer 30 ans plus tard, exactement en 1900. Ce que vous aurez deviné de vous-même, quand bien même vous ne seriez pas spécialement fortiche en calcul mental. Yves-Marie Le Guilvinec a écrit « La Cancalaise »,« Petit moussaillon »,« Plus rien que le sel »,« La pêche à la morue ». Je ne vais pas faire la liste de tous ces succès que l'on n'appelait pas encore des tubes quand on les chantait à tue-tête les soirs de beuverie et veille de grand départ dans le fameux café situé sur le port de Brest nommé « À l'Espérance » qui dans les années 50 a été transformé en mercerie avant de devenir, au début du siècle nouveau, un magasin de souvenirs. Une chanson d'Yves-Marie est devenue pour certains une sorte d'hymne aux sauveteurs en mer. Elle s'appelle « Quand un homme. Ai-je besoin de vous rappeler les paroles ? Oui. Quand un homme tombe à la mer, si tu es marin, si tu es humain, comme à un frangin, tu lui tends la main, tu le ramènes sur la terre, celui qui est tombé dans la mer. Quand un homme va se noyer, si tu es marin, simplement humain, il faut s'employer à le repêcher. Pas le moment de discuter. Quand un homme va se noyer, faut pas lui demander s'il a des papiers, s'il a un métier ou une fiancée. Faut donner ce qu'on peut. Un coin de ciel bleu, une poignée de main, un morceau de pain, du tabac de ta tabatière. Au gars qui allait mourir en mer. Quand un homme se noie sur terre, selon le bourgeois, c'est chacun pour soi. Au lieu de penser à le relever, comme font ceux qui vont sur la mer, sauver les gars de leur enfer, les remettre droit, et honte sur toi, s'il te vient l'idée de les laisser crever. Quand on l'a chanté autour des années 1890-1895, la chanson ne faisait aucunement polémique. Elle rappelait simplement le code de bonne conduite des marins qui avaient à cœur de ne pas laisser mourir des naufragés. Aujourd'hui, les défenseurs du « c'était mieux avant » accuseraient ces sauveteurs d'être des complices de la gauche immigrationniste, de la mafia des bien-pensants. Yves-Marie Le Guilvinec, à sa manière, droit dans ses sabots bottes avec montant en toile de voile huilée, disait que c'était mieux avant, après, tout le temps, sur terre comme sur mer, de faire preuve d'un peu d'humanité. Après Rokia Traoré, c'était une autre chanteuse malienne, Ma Damba, une Djeli Mousso, autrement dit une conteuse. Et j'ai appris qu'on pouvait dire aussi griotte, le féminin de griot. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais si vous avez encore des cadeaux de Noël à faire, pensez donc à acheter ce petit livre plein d'humanité qui ne coûte que 6 euros. Un livre caritatif dont les bénéfices sont intégralement reversés à SOS Méditerranée. Cette association qui a vu le jour en 2015 grâce à Klaus Vogel et Sophie Beau et dont l'activité peut continuer grâce aux dons de tous ceux qui n'acceptent pas que la Méditerranée devienne une fosse commune. Bonne fin d'année à vous et au plaisir de vous retrouver le jeudi 19 janvier 2023. Ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.